Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le thème numérisation et justice sociale. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. Et pour ce sujet, je vais laisser la parole à Laurent Costi, vice-président de l'April, et notre invité Hubert Guillot, journaliste spécialiste des systèmes techniques et numériques.
Merci Fred. Alors effectivement, nous accueillons Hubert Guillot, il est journaliste. Il a animé pendant de nombreuses années le média de la Fondation Internet Nouvelle Génération, internetactu.net. Spécialiste du numérique, il a publié en 2022 « Coincé dans Zoom », un livre sur l'impact du télétravail et prépare un nouvel essai consacré à Parcoursup. Il travaille également à un nouveau média consacré aux enjeux du numérique sur la société, dans le droit fil finalement de 20 ans de vulgarisation sur ces sujets. Est-ce que tu veux bien un peu compléter ton parcours, Hubert, s'il te plaît?
Bonjour à tous, mais non, il est très bien.
Bon. Très bien. Alors du coup, on va rentrer directement dans le sujet. On a un peu préparé l'émission avec Hubert, et c'est vrai que le premier point qu'on souhaitait aborder, parce qu'il est d'actualité, c'est toute la question des algorithmes, des intelligences artificielles qu'on devrait plutôt appeler intelligence augmentée, peut-être. Alors un des arguments le plus souvent mis en avant jusqu'ici pour critiquer les pratiques de collecte massive de données de la part des grandes entreprises de la Big Tech était leur objectif de profiler les gens pour rendre la publicité plus efficace. Avec l'avènement des modèles de langage comme ChatGPT fin 2022, on est en droit de se demander si la collecte de données n'avait pas aussi comme objectif de préparer et de consolider les bases de données nécessaires à l'apprentissage de ces nouveaux outils. En effet, maîtriser de tels outils et être en avant sur les concurrents confère, on le voit bien, un pouvoir certain. Donc du coup, selon toi, alors l'introduction est un peu lourde, mais selon toi, la focalisation, entre autres, des communautés libristes sur la lutte contre la collecte de données à des fins publicitaires a-t-elle empêché de voir ce qui se préparait du côté de ce que l'on appelle un peu trop globalement IA ? Autrement posé, cette question pourrait être aussi, comment se fait-il que tout cela a jailli fin 2022 alors que ce sont des travaux et des enjeux de société qui existent finalement depuis des années? Ça fait beaucoup de questions. Hein.
Ouais, ça fait beaucoup de questions en même temps. Je pense pas que le en fait, on a eu raison d'insister sur la question de la capture des données, en fait, vraiment depuis le début, parce que c'est bien le problème, en fait. Tu prenais l'exemple de la publicité, et effectivement, enfin, c'est un exemple vraiment marquant, en fait, parce que la publicité, elle repose complètement son modèle économique. C'est le modèle économique par défaut du numérique, en fait. Hein. Depuis la naissance du web, cette question du modèle économique est au cœur du problème. Et grosso modo, ce qu'on a essayé de faire toutes ces années, la fable qu'on a racontée aux investisseurs, c'est de leur dire donnez-nous de l'argent pour qu'on se développe, et à un moment on sera assez gros pour mettre de la pub et ça va rapporter de l'argent, en fait. Hein. C'est ce que racontait très bien le chercheur Ethan Zuckerman, j'écorche tous les noms, en 2014, la publicité, c'est le modèle économique du numérique, alors il est nécessaire toujours de récolter toujours plus de données pour créer des annonces ciblées qui seront toujours plus efficaces. Hein. Si les revenus publicitaires sont insuffisants, le moyen de les améliorer et de construire un meilleur régime publicitaire, plus adapté aux visiteurs, etc. Donc, par nature, plus invasif, plus omniprésent, plus ciblé. Hein, la publicité, on le comprend, mène tout droit à la surveillance des utilisateurs, à une surveillance toujours plus intrusive, en fait. Bruce Neier, le grand spécialiste de la sécurité, dit exactement la même chose, hein, quand il dit que la surveillance est le modèle d'affaires de l'Internet, et on est vraiment dessus. Le but, c'est de vous faire cliquer, pas de vous faire réfléchir. Ça favorise une forme de centralisation, vraiment, pour atteindre des publics toujours plus larges. Et enfin, ça renforce la personnalisation dans une forme où chacun est très, très isolé. Il y a 10 ans, quand Zuckerman commence ses propos sur la pub, il révèle qu'il a été l'un des inventeurs de la fenêtre pop-up. En fait, à l'époque, il n'était pas encore chercheur, il était développeur, et c'est lui, entre autres, qui a mis au point cette petite fenêtre pop-up. Il s'en est excusé, hein, et il pensait, pour lui, qu'à cette époque, que la fenêtre pop-up était un moyen, en fait, de rendre cette solution, de rendre le web plus accessible, alors que les gens ne savaient pas vraiment ce que c'était et ce que ça allait produire, en fait. C'était un moyen pour lui de permettre aux gens de pouvoir accéder, en fait, au web d'une manière gratuite, vu que la fenêtre pop-up, c'est la pub, hein, vraiment.
temps.
Ce qu'il raconte, en fait, vraiment, c'est que lui, en fait, ce qu'il imagine, c'est que passé ce premier modèle, les gens, on passerait à un modèle qui serait plus respectueux des données des utilisateurs, en fait. Or, ça n'a pas du tout été le cas. C'était même effectivement le contraire. On voit bien aujourd'hui, même, nous sommes de plus en plus contraints à devoir payer pour accéder aux services du web, en fait, mais pas avoir nos données personnelles plus respectées ou sanctuarisées, en fait. C'est la fameuse formule, si c'est gratuit, c'est vous le produit, mais moi, comme je rajoute tout le temps, si c'est payant, c'est vous l'êtes toujours, en fait. Hein. Même quand c'est payant, on est toujours le produit, bien souvent.
Moi, je distinguerais, excuse-moi, je te coupe, moi, je distinguerais quand même deux gratuités. Hein. Il y a une gratuité un peu, la gratuité des GAFAM, la pseudo-gratuité, qui est effectivement néfaste, et puis, souvent quand même, une gratuité sincère chez les libristes qui mettent à disposition des logiciels libres. Voilà, moi j'aime bien essayer de séparer les deux. On oublie souvent, effectivement, ça amalgame tout, hein, de dire si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et effectivement, l'objectif c'était bien d'alerter sur cette problématique-là. Mais du coup, faut peut-être pas oublier la logique un peu sincère parfois souvent des logiciels libres. Quoi. Mais c'est, excuse-moi de t'avoir.
Non, mais je suis assez d'accord en fait. Mais derrière, c'est la même sincérité que celle qu'exprimait Ethan Zuckerman, hein. C'est-à-dire on va rendre le web accessible en fait par cette formule-là. Et en fait, c'est peut-être une des limites. Effectivement, ça l'a rendu plus accessible, mais derrière, s'y sont inscrits en tout cas des logiques qui sont un peu plus problématiques. Et la bannière pub est vraiment, je pense, bon exemple. Quand elle naît en 94, c'est simplement une image qui est posée sur le site web de Wired. Et en fait, cette première image, on va calculer le nombre de gens qui vont cliquer dessus par rapport au nombre de gens qui se connectent sur cette page. Le taux, à l'époque, est faramineux, c'est 44% à peu près de gens qui cliquent sur cette publicité. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces taux-là et dans ces domaines-là. La publicité est devenue très envahissante, mais en même temps très, très, très peu productive, économiquement parlant. Et bien évidemment, ça pose des tas de problèmes. Mais est née ici, en fait, pour moi, la surveillance même d'Internet. Hein. D'un coup, on pouvait mettre une bannière et on pouvait surveiller les gens qui allaient cliquer dessus. Et on s'est mis à surveiller d'abord le nombre de gens qui cliquaient dessus, et après, de plus en plus d'informations, typiquement, depuis quel ordinateur ils se connectaient, quelle adresse IP, et on a continué à creuser, en fait, ces informations, qui étaient les utilisateurs qui venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, d'où ils venaient, précisément, etc. Et on voit bien que derrière cet affichage publicitaire est né, en fait, et s'est creusé toute la surveillance, aujourd'hui, dans laquelle est coulé Internet.
Excuse-moi, alors je te coupe aussi. Vas-y. Parce que ça me fait penser à une citation que j'ai retrouvée. On parlait de sincérité et de gratuité. J'ai retrouvé une citation de Larry Page et Sergey Brin, donc les cofondateurs de Google, qui en 98 disaient « Les objectifs du modèle économique de la publicité ne correspondent pas systématiquement à une offre de qualité pour les utilisateurs de la recherche en ligne. Nous pensons que les moteurs de recherche financés par la publicité seront intrinsèquement biaisés en faveur des annonceurs et répondront moins bien aux besoins des consommateurs. »
Effectivement, oui, tout à fait. Et ce qui est très amusant, c'est de voir combien ils se sont éloignés de leur première mission ou de leur première conviction, en tout cas. Vraiment. Mais aujourd'hui, la pub, c'est vraiment transformé. Hein. À chaque fois que nous agissons en fait sur Internet, nous sommes catégorisés, etc. L'un des exemples que j'aime bien donner, en fait, c'est aujourd'hui, c'est quand vous regardez, par exemple, sur Instagram ou Facebook, comment vous êtes caractérisé par cette publicité. En fait, vous pouvez arriver à trouver tout au fond de ces outils les petits tags qui vous sont renseignés et qui sont censés vous caractériser. Or, ces tags, en fait, donc ces moyens qu'on a de caractériser l'utilisateur, c'est pas vous qui les déclarez. Ils sont calculés, ils sont inférés à partir de vos pratiques, en fait. Moi, typiquement, par exemple, sur ma page, j'ai des trucs qui sont renseignés comme quoi j'aime le foot. J'aime pas du tout le foot, en fait, quoi. Mais le système, parce qu'il a vu que je m'étais peut-être arrêté une demi-seconde sur une image de foot, parce que je connais quelqu'un qui aime le foot et que j'ai déjà répondu en commentaire à lui, va inférer des choses, en fait, sur mon profil. Et tout le profil qui est constitué sur chacun d'entre nous est complètement bidon, en fait. La plupart du temps, on est caractérisé par des tas de mots-clés qui servent à servir la publicité et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Au contraire, même, c'est même une invention complète. On n'est pas du tout dans des formes de réalité. Et ça pose des tas de problèmes. Qui infère, qu'est-ce que ces machines qui infèrent des choses sur nous, sur lesquelles nous ne sommes pas vraiment au courant, et qu'est-ce qu'elles produisent? Alors, elles produisent, en fait, des formes des illusions, des hallucinations, comme on dit aujourd'hui avec ChatGPT, mais elles sont déjà là, en fait, hein, vraiment, dans cette manière même dont on profile les gens. Alors, il y a des choses, il y a des données que ces systèmes ont, par exemple, votre âge ou votre sexe, ils les ont la plupart du temps, mais ça ne les empêche pas d'en inférer plein d'autres. Sur votre propre profil, vous avez souvent votre âge qui est inscrit, donc la machine ou le système connaît votre âge, mais en même temps, dans ces tags, vous allez avoir des tas d'autres d'informations sur votre âge qui n'ont rien à voir avec votre âge réel, parce qu'elles vont être inférées depuis ce sur quoi vous avez cliqué, ce que vous êtes allé voir, etc. Et par exemple, je veux avoir à la fois 20 ans sur certaines données, 50 sur d'autres, etc.
Quand tu veux dire inférer, si on doit expliquer le mot aux auditeurs et aux auditrices,
inférer, c'est vraiment calculer ou
faire du croisement de données.
Voilà, ou des données croisées ou imaginer à partir d'autres données. Hein, le fait de passer un peu de temps ou de rester 30 secondes sur une image de match de foot va vous faire catégoriser d'un coup. Hop, vous allez devenir foot. Voilà, vous allez avoir ce tag qui va vous être attribué. Et ces systèmes recalculent comme ça en permanence des tas de données, inférant en fait qui vous êtes, essayer de deviner ce que vous êtes et ce que vous voulez faire.
Bah oui, c'est plus clair. Je te remercie beaucoup. Est-ce que autour donc du coup de cette question-là, tu estimes avoir répondu par rapport à la question publicitaire, on peut peut-être je peux passer à une question suivante éventuellement.
Oui, bien sûr.
Non mais c'est extrêmement riche, c'est extrêmement dense, donc effectivement faut le digérer aussi. Alors toujours sur cette question des algorithmes, on voit bien avec tes exemples que on ne sait pas trop comment les algorithmes jouent leur jeu finalement. Récemment, avec les intelligences artificielles entre guillemets, la question de l'ouverture de l'algorithme s'est posée. Il y a eu pas mal de débats autour de cette ouverture. Peux-tu faire part un peu de tes réflexions sur ce sujet? Alors, tu as écrit deux articles sur le Framablog par rapport à cette ouverture du code pour dire que il y a pas finalement que ça ne suffit pas à appréhender comment ça fonctionne, etc. Donc tu peux éventuellement nous en dire plus et puis peut-être prendre l'exemple du partage du code que la ville de Rotterdam a opéré par rapport à la distribution des aides sociales sur la ville, parce que je trouve que cet exemple-là, encore une fois, permet vraiment de comprendre et d'appréhender ce qui se passe, ce qui se joue avec la question des algorithmes.
Je vais d'abord répondre sur la question de l'ouverture comme faux semblant. Alors, l'ouverture, ou la transparence, ou le fait que le code source soit disponible, est, depuis l'origine, un moyen de dire, voilà, on sait ce que fait le code, puisqu'il est ouvert et disponible, hein, c'est le principe même de l'open source, on peut regardez, c'est ce que Lawrence Lessig affirme quand il dit « code is law », le code c'est la loi, et effectivement, le code permet d'accéder au code en fait, hein, et donc de savoir exactement ce qui est calculé, etc. Le vrai problème aujourd'hui, il me semble, c'est qu'on parle beaucoup de l'ouverture et de la transparence, que je défends, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut passer des formes d'opacité, hein, c'est bien le contraire en fait, mais on nous dit que cette ouverture, cette transparence sont les moyens de régler tous les problèmes. Or, en fait, le problème, c'est que c'est de moins en moins vrai. D'abord parce que le code est de plus en plus compliqué, complexe, il est imbriqué entre des tas de systèmes différents, et quand vous libérez quelque chose, en fait, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas libérées, en fait. On l'a vu, par exemple, avec la libération du code de Twitter par Twitter en mars de cette année, si je ne me trompe pas.
Ça.
Voilà. et d'un coup, on allait avoir toutes les réponse sur le fonctionnement de Twitter. Et en fait, on n'a pas beaucoup de réponses, en fait. D'abord, parce que Twitter n'a pas libéré tout le code, loin de là, il en a libéré que certaines parties qui permettent d'avoir certains bouts d'informations, mais il y en a plein d'autres, en fait, qui nous échappent. Oh, ça pose, en fait, un vrai problème. La réponse qu'on a tendance à dire, c'est il faut la transparence et la transparence suffira. J'ai de plus en plus, moi, tendance à dire que effectivement, cette transparence idéale ou idéale, elle serait formidable. Le problème, c'est qu'elle devient de plus en plus difficile, en fait. Moi, je parle de plus en plus aujourd'hui de on est dans un système qui n'est non pas transparent, mais qui est translucide. On a l'impression de voir ce qui se passe, mais en fait, pas vraiment. Et c'est très très compliqué parce qu'on veut continuer à ce que cette transparence soit effective en fait. On voudrait la pousser, on voudrait que les choses nous soient complètement lisibles, claires et déterminées. Et en fait, bah, c'est pas le cas. Et en fait, pour moi, la transparence ne suffit pas. C'est-à-dire que on va pas pouvoir dire bon bah finalement je vais publier le code et ça va suffire. En fait, il faut mettre la transparence au cœur. Et il faut commencer par elle, en fait. Si on veut vraiment rendre les choses transparentes, il faut commencer par la transparente. Et ça doit être, elle, le cœur de l'activité et de tout ce qui est publié autour. Or, bien souvent, en fait, la transparence vient après. Finalement, on publie le code derrière et ça va aller.
Conditions nécessaires, mais insuffisantes.
Voilà.
Alors, il me semble que j'avais aussi lu un souci dans l'article que tu avais écrit. Alors, ouais. Je pense que c'était là, mais il y avait aussi le fait que, outre effectivement le code, il y avait la question de la base de données, sur quelle base de données on se base, et sur les critères effectivement qui alimentent l'algorithme, enfin sur les critères qui finalement font que l'algorithme choisit telle ou telle chose. Et finalement, ces critères-là, ils sont sans cesse réajustés. Donc finalement, on va analyser un algorithme à un instant T, et puis l'instant d'après, a priori, on peut avoir changé des paramètres.
Ouais, ouais, tout à fait. Quand Twitter publie son code, et c'est un fichier statique en fait, hein, donc le problème, c'est que Twitter, même par ses systèmes d'intelligence artificielle qui raffinent en fait en permanence la manière dont il propose les choses et qu'il les ajuste en permanence, en fait, ça change tout le temps. Au moment où il le publie, son code est en fait déjà obsolète et les choses ont déjà changé. Donc aujourd'hui, par exemple, avec le Twitter Blue, on sait que le fait de s'abonner à Twitter en payant va vous favoriser en fait dans Twitter et va vous rendre en fait plus visible. Alors la pondération, ça serait de 2 à 4 fois supérieure à ceux qui ne sont pas abonnés. Et on voit en fait que ça va certainement bien plus vite. Aujourd'hui, quand vous avez encore Twitter, ce que je vous souhaite pas, mais qui est parfois encore un petit peu utile, vous voyez très bien que vous ne voyez plus les gens en fait avec auxquels vous êtes abonnés, et vous voyez de plus en plus ces comptes qui ont payé pour et qui viennent en fait jusqu'à vous. Et c'est ce que Cory Doctorow appelle l'emmerdification des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on suit des gens en fait, c'est à eux qu'on veut avoir accès, et en fait ces systèmes algorithmiques les transforment complètement, tant et si bien que vous n'avez plus accès aux gens que vous suivez, et vous avez 2/3 de pubs et 3/4 de comptes de gens qui ont payé et donc qui vont vous être sursollicités.
Merci. Alors du coup, on peut reparler de Mastodon, hein, qui avait un peu fait parler de lui au moment du rachat de Twitter, mais c'est vrai que c'est un système alternatif décentralisé. Donc on peut que vous encourager à vous renseigner sur cette solution alternative. Je continue sur les intelligences artificielles, toujours entre guillemets, hein, puisqu'on pourrait encore une fois débattre pendant des heures. Oui, vas-y.
Ouais, je voudrais qu'on parle de Rotterdam.
Ah oui, pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie.
Je vais me permettre d'être un peu précis, mais je pense qu'aujourd'hui, ça, on a eu là, donc c'était récemment, je crois que c'était en juin, c'est Wired, encore une fois, avec des journalistes d'investigation néerlandais, qui ont publié, en fait, une grande enquête sur un système d'aide sociale. Et ce système d'aide sociale, c'est celui qui a été utilisé par la ville de Rotterdam pendant plusieurs années, hein. À Rotterdam, en fait, quelques 30 000 personnes bénéficient d'aides sociales, des aides au logement, des aides pour payer des factures, pour acquérir de la nourriture, etc. En 2017, la ville a déployé un nouveau système de lutte contre la fraude aux allocations mis en place par Accenture. Et le système génère un score de risque sur tous les bénéficiaires de l'aide sociale selon des critères assez problématiques puisqu'il prend en compte l'âge, le sexe, la maîtrise du néerlandais. En 2021, la ville de Rotterdam a suspendu ce système après avoir reçu un audit sur celui-ci. Et en fait, commandé par le gouvernement, Riot et Lighthouse ont obtenu l'algorithme ainsi que les données d'entraînement. Et c'est assez rare en fait, hein. La plupart du temps, sur tous ces vastes systèmes, on n'a pas les codes et on n'a pas non plus les données d'entraînement. Or là, ils ont pu avoir accès aux deux. Donc ça leur a permis en fait de reconstruire le système et de le tester pour essayer de comprendre en fait comment cette machine essayait de détecter la fraude en fait. Ce que disent les journalistes, c'est que cette machine est avant tout une machine à soupçons, hein. Ce qui a apparaît un travailleur social comme une vulnérabilité, comme une personne montrant des signes de faiblesse, est traité par la machine comme un motif de suspicion. Les commentaires, ça c'est un truc vraiment hallucinant, c'est-à-dire les commentaires des travailleurs sociaux sur les dossiers, c'est-à-dire ce sont donc des travailleurs sociaux qui renseignent un dossier d'une personne, il y a un champ de commentaires sur lequel ils peuvent dire bon, cette personne est vraiment de bonne foi ou cette personne est vraiment de mauvaise foi, par exemple, j'exagère mais je caricature. Alors le fait de mettre un commentaire qui soit positif ou négatif, comme je viens de vous le dire, compte dans le système. En fait, c'est quand il n'y a pas de commentaire que cette donnée est désactivée, mais que le commentaire soit positif ou négatif, ça impacte le système comme un critère de risque, en fait.
Négatif, comme un critère négatif.
Comme un critère négatif, tout à fait. Et il y a plein de choses comme ça, en fait, quand on regarde ce système dans le détail, c'est ce qu'ont fait ces journalistes, hein. Il y a quelques 315 variables pour essayer de calculer un score de risque. Et alors, il y a des variables qui vont se substituer à l'ethnicité, hein, notamment le fait qu'à Rotterdam, les bénéficiaires de l'aide sociale doivent parler le néerlandais ou montrer qu'ils font des efforts pour y parvenir. L'indication de la langue matérielle ou le fait de vivre avec des colocataires peuvent également servir de substitution, en fait, à ces calcul, et l'indication de la langue maternelle a été reconnue comme problématique par la Cour des comptes néerlandaise. Hein. Mais ça n'empêche que, en fait, ces systèmes essayent, comme on le disait tout à l'heure, d'inférer, en fait, des choses. Ce qu'on voit vite, en fait, dans tous ces critères, c'est que sur toutes ces variables, certaines sont bien plus problématiques que d'autres, en fait, et conduisent à des scores plus élevés. Par exemple, le fait que vous soyez une femme célibataire avec des enfants va être corrélé à un facteur de risque supplémentaire. Or, quand on demande à la ville de Rotterdam ou au système d'aide sociale, est-ce que vous avez plus de fraude chez les femmes seules avec des enfants ou pas, ils sont incapables de répondre. Mais le système, lui, c'est ce qu'il va mettre en avant et c'est ce qu'il va regarder, en fait. Et c'est à partir des données qu'il a appris, c'est là où il va pointer des problèmes. La même chose sur les personnes d'origine étrangère qui parlent des langues différentes. Par exemple, il semblerait que le système arrive à calculer, selon des tas de langues différentes, il y aurait certaines langues qui seraient plus corrélées à un critère de risque que d'autres. Voilà. Et c'est ça qui se passe quand on regarde vraiment le fonctionnement des systèmes dans le détail. Et ce qu'on ne fait pas assez, en fait, aujourd'hui, des tas de systèmes d'aide sociaux sont développés de partout. On en a en France. Là, on a un très bon exemple d'un système à l'étranger, mais il y en a plein partout. Ça fait une dizaine d'années, la chercheuse Virginia Obanks, qui a commencé, en fait, ses travaux sur ces systèmes dans un livre formidable qui s'appelle Automating Inequality, l'automatisation des inégalités, a montré, en fait, que ces systèmes étaient partout défaillants. Et depuis, en fait, partout où ils sont développés, on voit qu'ils sont effectivement partout défaillants.
Merci. Alors, du coup, est-ce que tu veux parler de la CAF aussi un peu en
Alors,
France?
Le problème de la CAF, c'est que c'est difficile d'en parler, en fait, parce qu'on ne sait pas.
Il n'y a pas la transparence de la ville de Rotterdam.
Non, on n'a pas encore la transparence de la ville de Rotterdam avec la CAF.
Il y a eu des demandes CADA, donc ça on en parlera en fin d'émission avec la petite intervention.
Il y a eu effectivement des demandes CADA pour accéder au système de ce calcul, parce qu'en fait, le système de calcul de score de risque, la CAF en fait fait la même chose que la ville de Rotterdam. Alors certainement avec des techniques un petit peu différentes, mais elle calcule également un score de risque sur un risque de fraude de ses usagers dans l'un de ces systèmes. Donc, quand vous essayez d'obtenir des aides, votre profil est étudié. Alors, ils ont fait ça comment? Ils ont utilisé 5000 dossiers frauduleux et ils l'ont fait analyser par des systèmes, justement, qui vont être capables de repérer. Et à partir de ces données générées, on va l'appliquer à tous les autres cas de la CAF pour essayer de regarder est-ce que d'autres dossiers peuvent être frauduleux. Le problème, c'est que dans ces formes d'analyse, on analyse toutes les données. Et il y en a plein qui posent problème. Et alors, on ne sait pas aujourd'hui exactement quels sont tous les critères qui sont mis en place par la CAF pour produire ces scores, en fait. Il y a effectivement eu des demandes CADA, notamment par la quadrature du net.
Donc demandes de documents administratifs.
Hein. Voilà, des demandes de documents administratifs pour accéder, en fait, au code, en fait, et au système de scoring des gens. Il y a une autre association qui est très en force sur ce sujet, c'est la petite association Changer de Cap, qui a fait un rapport absolument excellent, vraiment, sur ces questions, en montrant les difficultés dans lesquelles étaient les gens par rapport à ces systèmes de scoring. Mais malgré tout, on ne sait pas grand-chose de ces systèmes de scoring pour l'instant, parce que le code n'est toujours pas public, et ce qu'a reçu en fait la quadrature, ce sont de vieilles versions du système en fait de la CAF, parce que la CAF s'en justifie en disant mais on peut pas vous donner accès à la version actuelle parce que sinon les gens vont pouvoir le contourner. Or les gens qui sont
vont pouvoir s'en servir pour contourner le système.
Voilà. Alors les gens qui sont dans des difficultés vont avoir du mal à les contourner. Par exemple, juste pour prendre un exemple, le système a identifié que le fait de se connecter à son espace CAF plus d'une fois par mois serait problématique. Bien évidemment, quand vous analysez toutes les données, le système va trouver des tas d'inférences, des tas de problèmes en fait. Or, le fait de se connecter plusieurs fois par mois à son espace CAF, c'est souvent parce que vous avez un problème d'argent qui ne vient pas, ou vous attendez un versement, etc., et que vous ne l'avez pas. Comment en fait est-ce qu'on se retrouve avec des tas de critères qui sont... Et l'enjeu, c'est d'interroger en fait les critères qui sont mis en place en fait. Est-ce que ces critères sont justes? Est-ce qu'on a le droit de les prendre en compte?
Comment ils sont pondérés?
Comment ils sont pondérés par rapport à d'autres, etc. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu le nébuleux autour de ce que fait la CAF. Ce que disent les chercheurs du domaine comme Vincent Dubois, par exemple, c'est vraiment que on est dans un système où en fait, bah, les plus pauvres sont les plus surveillés, mais d'une manière assez logique en fait. Quand vous avez des versements qui viennent de ces systèmes sociaux, pour la plupart des gens en fait, il y a pas de problème. Ils ont un salaire fin de mois, les choses sont très très régulières, etc. Le problème, c'est dès que vous sortez de ces formes de régularité en fait, dès que vous n'avez plus de salaire tous les mois, vous avez des salaires variables toutes les semaines, etc. Tout ça génère en fait automatiquement des formes
de la donnée,
des alertes, etc. Des trucs, ah bah tiens, il n'a pas un profil normal, etc. Et on voit bien que plus vous êtes dans des systèmes qui sont un petit peu difficiles, donc par exemple le RSA, ce sont des contrôles tous les trois mois et non pas une fois par an comme d'autres, et donc plus vous allez avoir tendance à calculer des données et donc des erreurs qui sont considérés trop souvent comme des fraudes et qui vont être problématiques, en fait.
Merci. Alors, du coup, la CAF, l'histoire de la CAF, ce sera à suivre. Peut-être que tu reviendras dans quelques mois. Je vais repasser la parole à Fred pour la pause musicale.
Eh bien, merci Laurent, merci Hubert. Nous allons donc écouter Trébor par Ciboulette Compagnie. Un choix excellent, d'ailleurs, de Laurent Costier. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. Je suis un tout petit ouvrage auquel il manque 2 ou 3 pages, mais aucune trace de ces dernières mystères. Il y a tant et tant d'années, quelqu'un me les a déchirés, transformés en hélicoptère par terre. Je perdis mes définitions, fus dépourvu de quelques noms, telle une roulée, je tombais ouvert. Un soir d'hiver, terme technique, pas de panique, je suis là pour la phonétique. Dites adieu à vos misères, mes frères. Je fais le bonheur des cruciverbistes, parfois même certains artistes puissent en moi leur vocabulaire. Vipère. Furent brûlés vifs par des seigneurs peu réceptifs à tous ces bibliothécaires des monastères. Chez moi vous trouverez des canons, je vous abrège les illustrations. Quand je me promène, je sors couvert, pervers. Je suis parfaitement relié, un jeune homme toujours bien rangé. Fier de rehausser au dessert les petits derrière. Si un jour vous avez un doute, dites-moi tout, je vous écoute. Allumez donc cette lumière. Parlons affaires. Ma jeunesse ne fut pas facile, je servis même de projectile dans mon école en temps de guerre austère. Les enfants ne m'aimaient pas trop, ils me surnommaient le Dico. Choisir mon nom fut une sévère galère. Nathan, mon père, ne trouvait pas, ma mère Larousse s'écria: j'achète ce nom, il va te plaire, Robert. Il va te plaire, Robert.
d'écouter Trébor par Ciboulette Compagnie, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors, nous allons poursuivre le sujet principal qui porte sur le thème de la numérisation et justice sociale avec Laurent Costi, vice-président de l'April, et notre invité Hubert Guillot, journaliste spécialiste des systèmes techniques et numériques.
Merci Fred, alors on va continuer, on parlait d'intelligence artificielle ou intelligence augmentée, ce qui serait sans doute un terme plus adapté. On a vu quand même une espèce de peur panique hein, vis-à-vis de l'IA quand elle a débarqué fin 2022. Alors première question, est-ce que cette peur est justifiée selon toi? Et puis est-ce que c'est pas aussi parce que pour la première fois dans le monde du travail, les professions intellectuelles se sentiraient un peu menacées, alors que pour une fois les ouvriers, le travail manuel serait peut-être moins impacté par cette entre guillemets invention. Et puis complémentairement, si tu peux expliciter aussi la tendance que l'IA a à nous cantonner finalement à des logiques de superviseurs. J'avais lu ça dans un des articles que tu avais écrit, je sais plus, je pourrais le citer. Enfin, je l'ai, on le mentionnera sur la page de l'émission, bien sûr. Mais voilà, c'est cette notion de superviseur, je la trouvais extrêmement intéressante parce qu'elle illustre bien ce que ça peut provoquer finalement l'arrivée de l'IA aussi.
Alors, cette grande peur à laquelle on est confronté, effectivement, hein, aujourd'hui, elle se cristallise certainement parce qu'elle adresse d'autres types de professions que celles d'avant, une menace qui est plus sur les CSP plus que les CSP moins. Je pense que ça, c'est effectivement assez juste. Moi, je suis un peu hermétique quand même au discours rassuriste qui vise à nous faire croire qu'il faut pas s'inquiéter, que l'enjeu c'est pas la disparition de l'emploi mais sa transformation, etc. Depuis le début de l'industrialisation, le but est quand même d'essayer de remplacer des gens par des machines, soi-disant parce que ça va coûter moins cher. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais malgré tout ça le devient petit à petit, et on voit bien que les grandes usines de Ford avec des milliers, des centaines de milliers d'ouvriers, on est passé à des usines de Stellantis où il y a plus grand monde sur les chaînes productives, en fait. Hein. Donc,
on pourrait glisser le mot capitalisme ici-là entre deux phrases.
On peut le glisser partout. Ça, c'est pas un souci. Donc il y a quand même bien un but du jeu, hein. C'est essayer de nous remplacer ou essayer de voir si les machines peuvent pas faire le travail à notre place pour moins cher que nous.
Voilà. Sans se mettre en grève en plus. Hein.
Sans se mettre en grève, etc. Bon, alors la vérité c'est que ça marche pas si bien que ça, que souvent les machines défaillent et qu'il faut faire autrement, d'où le fait que, comme dit Antonio Cassilli, il faille aller voir des petites mains pour faire de l'IA à Madagascar, taguer des images, taguer des propos et en fait permettre justement à ces inférences dont nous parlions tout à l'heure de pouvoir être rendues productives. Mais je pense que je suis assez d'accord avec ce que dit le sociologue Juan Sebastian Carbonell dans son petit livre Le futur du travail, qui est paru en 2022. C'est plus qu'un grand remplacement par les machines. Malgré tout, ce qui nous attend, c'est notre prolétarisation par les machines. Hein. L'avenir du travail ressemble bien plus à un monde désintégré qu'intégré, à une ordre de micro-entrepreneurs sans salaire minimum ni protection. En fait, le futur du travail, il ressemble bien plus à son passé. Hein. Et je pense que, en nous invitant à jamais abandonner la lutte sociale. Et je pense que c'est ça un petit peu le risque de l'IA. C'est d'être de plus en plus des contrôleurs, des superviseurs, en fait, de ce qui se passe, plutôt que des créateurs. C'était Dana Boyd qui disait ça récemment dans un article que je devais trouver plutôt éclairant, où elle disait le problème c'est qu'on va être justement confronté à ça dans ces nouvelles interfaces, dans le ChatGPT par exemple. Ce que vous devez faire, c'est contrôler ce que produit le robot, en fait, et non plus produire en soi-même. C'est à vous de contrôler ce qu'il fait, en fait, de regarder est-ce que les termes sont bien, etc. Et ça, en fait, cette demande, elle est pas si simple. Au contraire, elle est certainement encore plus compliquée qu'avant. Mais elle vous place dans un poste qui n'est pas celui de produire produire des idées pour produire des idées ou produire des propos pour produire des propos, mais justement des contrôler. Et ce contrôle, ça demande des formes d'expertise, etc., assez élevées en fait, qui s'acquièrent pas très facilement. Et le problème, c'est que quand nous sommes remplacés par ces systèmes, comment est-ce qu'on acquiert en fait cette expertise ? Et je pense que là, on a aussi un autre problème, hein, c'est toujours cette déqualification et cette prolétarisation en cours, c'est que pour arriver à savoir ou à comprendre comment ça fonctionne, jusqu'à présent, il fallait produire des tas de choses, en fait, du texte, de la réflexion, etc. Et là, d'un coup, le système produit, en fait, ses propres textes, mais vous devez les corriger et être très attentif à ce qu'ils produisent. Bien évidemment, c'est pas facile et c'est pas très simple, en fait. Et je pense qu'il y a là une vraie difficulté sur ce que ces systèmes font, en fait. Et ils vont à la fois demander plus d'expertise et cette expertise va être aussi plus dévalué ou dévalorisant parce qu'en fait, vous êtes plus que le contrôleur de la machine. Avant, quand vous preniez un traducteur pour traduire un livre, vous payez une personne qui est là pour traduire le livre du début à la fin avec son expertise, etc. Aujourd'hui, ce même traducteur, on va le payer un peu moins cher parce que vous comprenez, il faut juste qu'il supervise en fait la traduction qui a été faite en fait. Et donc, d'un coup, alors c'est là où le système arrive à faire des économies, etc. Mais derrière, notre expertise est d'une certaine manière quand même déqualifiée et déqualifiante. Le risque, bien évidemment, en fait, ce que ça renforce, c'est des risques de polarisation très très forte entre des super traducteurs dont vont continuer à pouvoir traduire exactement comme ils veulent et la masse générale des gens qui vont venir superviser ces traductions en fait. Donc je pense que le risque de ces systèmes, c'est une forme quand même d'augmentation de la déqualification et de la prolétarisation des gens, que ce soit ceux qui génèrent des images ou ceux qui surveillent les textes de ChatGPT. Ça n'empêche pas qu'il restera toujours des gens qui vont produire, faire de la pensée ou des grandes images, mais ils risquent en fait d'être encore plus restreints qu'avant.
Et là, tu parles finalement de production intellectuelle, mais je crois que tu avais pris l'exemple dans un article et un film avait été fait sur un pilote d'avion qui était un vétéran de l'armée de terre et qui finalement était capable en situation d'urgence de reprendre la main sur les machines.
Ouais.
Or, en étant superviseur finalement...
Oui, c'est le film de Clint Eastwood, c'est comme ça qu'il s'appelle si je me trompe pas. Donc cette histoire de ce pilote d'avion qui a posé un avion dans l'Hudson en fait. Le problème des pilotes d'avion qui sont confrontés à ces systèmes machiniques depuis un grand moment, c'est qu'en fait, ils montent dans un avion et grosso modo, l'avion, il se pilote en fait tout seul. Ils ont rien à faire. Ils sont juste à reprendre la main quand il y a un problème. Le problème, c'est que comme ils pilotent pas vraiment, en fait, ils sont juste là à superviser, et ben, ils perdent de la compétence, en fait, à pouvoir résoudre un problème ou à pouvoir reprendre la main quand il y a un problème. Et cette perte de compétence est très problématique. Donc, c'est pour ça qu'on les enferme dans des caissons où ils doivent s'entraîner sans arrêt pour arriver à reprendre la main. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, petit à petit, leurs compétences en fait se dégradent. Ils ont du mal à reprendre la main. Ce qui est arrivé dans cette histoire de l'Hudson, en fait, c'est que le gars qui était pilote d'avion, c'est justement un expert en fait, et c'est un super expert. Il formait les autres pilotes à reprendre la main. C'était sa spécialité. Il était là pour dire aux gens, alors voilà comment est-ce qu'il faut faire quand il faut reprendre la main, etc. Or là, quand l'avion a commencé à avoir des problèmes, la tour de contrôle, les système lui disait, il faut que tu retournes à la base, il faut que tu retournes à l'aéroport, etc. Et lui, qui avait la compétence de pouvoir dépasser l'analyse que le système lui fournissait et tous les conseils qu'il recevait, il savait que c'était pas possible. Et donc, il a pris un choix que tout le monde, que la tour de contrôle lui déconseillait, etc. et que plein d'autres pilotes n'auraient pas pu faire. Il a dit, je vais le poser sur l'Hudson, c'est le seul endroit qui est dégagé, etc. Et c'est ce qu'il a fait. Les gens sont sortis, ils ont pu être sauvés, etc. Mais il l'a fait parce qu'il avait, en fait, une énorme compétence, une énorme expertise là-dessus, ce qui n'aurait pas pu être fait autrement. Et c'est ça le risque de ces systèmes. C'est qu'en fait, ils nous enlèvent nos expertises et ils nous empêchent demain de pouvoir être plus réactifs. Vous avez la même chose sur la voiture autonome, voilà, qui se conduit toute seule. Et quand il faut reprendre la main parce qu'il y a un problème, souvent, c'est là que le problème se déclenche encore plus.
Merci, parce que je pense que cet exemple-là, il illustre bien justement ce vers quoi on peut tendre, outre effectivement ce dont tu parlais, à savoir la déqualification et puis la perspective pas forcément très rose de l'avenir du monde du travail, mais bon, en tout cas voilà, merci, je trouve que ça éclaire. Je te propose d'essayer d'aborder un peu les questions alternuméristes, je sais pas comment on dit. J'avais préparé quelques questions, on va essayer d'échanger, parce que je trouve que ça peut concerner un peu les communautés libristes. Donc, alors c'est vrai que longtemps, les communautés libristes, alors leurs débuts, ont laissé penser, ou en tout cas, ça a été perçu comme tel, que le logiciel libre était la solution à tous les soucis que le numérique privateur avait généré, et que c'était la voie incontournable pour aller vers un numérique plus éthique. Bon, les quatre libertés du logiciel libre devaient en effet permettre de limiter les monopoles, de libérer les utilisateurs et les utilisatrices. Avec les années et la sagesse, le logiciel libre est plutôt désormais posé comme condition nécessaire mais non suffisante, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, est-ce que tu partages un peu ce regard ? On l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Et le cas échéant, qu'est-ce qui manque au logiciel libre et à ses communautés pour être connu, reconnu et adopté plus largement selon toi ?
Question difficile. Alors, cette question qu'on posait comme l'alternumérisme, ça s'inspire d'un livre. Hein. Je pense qu'il faut qu'on le signale. Je vous invite à le livre. Moi, c'est un livre qui m'a marqué. Ça s'appelle « Contre l'alternumérisme ». Ça a été publié en 2020 à La Lenteur et c'est signé Julia Lenae et Nicolas Alep. C'est un petit livre difficile à trouver. Enfin non, il a été réédité il y a peu de temps. Donc, vous allez pouvoir le trouver assez facilement. Et c'est un livre, justement, qui... Sa question centrale, c'est de se dire... En fait, face à la technologie, le but, c'est d'être plus radical qu'on ne le croit. On ne la fera pas devenir plus respectueuse des gens en proposant des formes d'alternatives qui sont d'être plus éthique, d'être plus responsable, d'être plus transparente. Ça ne suffira pas à la rendre plus vertueuse. Je caricature un peu le propos.
Je peux prendre deux citations que j'avais relevées, du coup, effectivement, qui montrent bien à quel point il y a peu d'espoir selon les personnes qui ont écrit ce livre-là. Donc j'avais noté « Se réapproprier l'usage des dispositifs numériques en bout de chaîne ne change rien à l'ensemble du système technicien », c'est ce que tu viens de dire. Ou autre citation « Effectivement, comme l'ont pointé nombre d'alters numéristes, nous passons bien souvent plus de temps à combattre les mythes et promesses du numérique qu'à faire avancer une autre feuille de route pour le numérique ».
Alors c'est là où je suis un peu en décalage avec eux, c'est que eux sont contre toute forme d'altérité ou d'alternative en tout cas. Et moi je pense que quand même aujourd'hui ce dont on souffre c'est justement le manque d'alternative et le manque d'autres solutions. Que là je suis peut-être un peu moins radical que eux là-dessus. Mais on en souffre vraiment énormément et je pense que c'est vraiment un gros problème. Tout à l'heure, on a parlé de la publicité et la manière dont on était calculé en fait par la publicité, qui se nourrit de nos données pour vous proposer toujours plus de ciblage, d'affichage, de clics, etc. Or, il y a d'autres modalités en fait de faire de la publicité. L'une des autres modalités de faire de la publicité, par exemple, c'est de faire de la publicité contextuelle. L'idée de la publicité contextuelle, c'est de dire que la publicité va s'afficher en fonction de l'endroit où vous êtes. Par exemple, vous êtes sur un article qui parle d'automobile et en fait, elle va pas utiliser les données des utilisateurs pour calculer les choses, mais elle va utiliser ce qui est dans la page pour mettre de la publicité adaptée. C'est ce que vous aviez dans la presse avant, hein. Dans les pages beauté, vous aviez la publicité pour le mascara, et dans les pages vêtements, vous aviez la publicité pour les fringues, hein. Là, c'est un peu la même idée. Donc, on voit qu'il y a d'autres modalités, en fait. Et je pense que on en souffre aujourd'hui énormément. C'est qu'on n'a pas d'autres modalités que ces grands systèmes qui se sont petit à petit complexifiés et qui fonctionnent, en fait, et qui s'imposent à nous de partout. Et donc, j'ai quand même tendance à me dire il y a des tas de moyens de faire autrement, en fait. Le problème, c'est d'être coincé dans des visions, dans des systèmes qui sont globaux et qui influent sur notre vision du monde et sur la manière dont on le pense. Un exemple de tout simple, le système de calcul de la récidive dans le droit américain pour calculer le score de risque des gens à récidiver et donc qui fait qu'on va les maintenir en prison ou pas, ce sont aujourd'hui des systèmes automatisés avec des tas de questions qui fonctionnent et qui reposent en fait sur le fait on va calculer depuis les données personnelles des individus condamnés pour savoir s'ils ont un risque de récidive. Or, on pourrait imaginer des tas de systèmes complètement différents, il y en a d'ailleurs, qui vont plutôt regarder en fait et proposer par exemple au juge de regarder, bah voilà pour un profil du même type, tous les autres qui ont été jugés de telle ou telle façon pour pouvoir adapter votre jugement à des tas d'autres cas. On voit qu'il y a toujours en fait des alternatives et aujourd'hui dans le numérique dans lequel on est, il n'y a pas d'alternative. Et je pense qu'on en souffre vraiment profondément et qu'on a besoin de mettre en place d'autres systèmes. On a la même chose avec la CAF, avec Rotterdam dont on parlait tout à l'heure. On est dans des systèmes un peu à pensée unique qui fonctionnent tous d'une même façon et ce dont on a besoin, c'est de les casser et de faire d'autres types de propositions. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin des libristes pour faire d'autres types de propositions. Mais il faut que, effectivement sortir des logiques dans lesquelles nous sommes et les proposer autrement, en mettant la transparence au cœur, la liberté, l'égalité, la justice sociale au cœur de ces systèmes. Aujourd'hui, on n'y est pas.
Très, très belle phrase, merci. On saura l'extraire des propos de l'émission. Alors du coup, peut-être aussi. Alors il nous reste plus beaucoup de temps. Il nous reste moins de 8 minutes. Je vais te poser une dernière question sur le monde libriste et la relation au low-tech. Et puis, je te laisserai conclure éventuellement. Voilà. Monde libriste et low-tech ont de bonnes raisons de s'entendre. Ces raisons sont-elles suffisantes selon toi pour servir la cause libriste et la cause écologiste?
On peut l'espérer, en fait. Le low-tech, c'est, si je résume rapidement, c'est histoire de dire qu'il y a une alternative au high-tech, donc à ces grands systèmes, c'est de faire des systèmes peu gourmands en données, peu gourmands en forme de calcul, peu gourmands en matériel, etc. On voit que c'est une vraie piste. Mais c'est une piste qui est à l'antipode de tout ce qui se développe aujourd'hui. On y est très très loin, en fait. Et ma grande difficulté, c'est de se dire, est-ce que c'est une réponse qui peut avoir des formes de est-ce qu'on peut trouver en fait là-dedans est-ce que ce sont des vraies réponses ou est-ce que ce sont des réponses qui ne peuvent rester que marginales en fait. C'est une question sur laquelle je n'arrive pas vraiment à me décider. J'ai quand même l'impression qu'on est dans des propositions qui risquent de s'enfermer dans leur marginalité par rapport à ces grands systèmes qui se développent partout. J'aurais tendance à dire, je pense que c'est vraiment important, effectivement, de développer des alternatives qui soient plus responsables, plus équitables, plus soucieuses de ce qu'elles font. Mais le risque, c'est qu'elles soient vraiment trop éloignées des grandes réponses qui sont fournies aujourd'hui, en fait. Et donc, pas appropriées ou appropriables.
Très bien. Alors du coup, peut-être que dans ce qui pourrait servir de conclusion, nous évoquer peut-être la voix des communs et du collectif. Alors c'est vrai que j'avais relevé plein de citations que je trouvais assez extraordinaires. Alors je vais en prendre une là, mais de même, plus on traite les choses sous un angle individuel, moins on traite le problème sous un angle collectif. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais font que l'objectif, c'est de diviser, de séparer, de rendre vraiment d'individualiser quoi. Et alors que finalement, notre seule issue quelque part, c'est le commun. Enfin, je sais pas, est-ce que ça...
Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on est dans des systèmes techniques qui vous individualisent par nature, en fait. C'est vous qui êtes le seul utilisateur face à ces systèmes, en fait. C'est vous qui êtes calculé. Vous, individuellement, qui êtes toujours calculé. Dans les systèmes au travail, aujourd'hui, ce qu'on calcule, c'est la performance, la rentabilité des gens d'une manière totalement individuelle. On se contrefout, pardon, on se moque largement du collectif de travail, de l'entreprise en tant que telle. On va regarder l'employé et on va calculer quelque chose sur ce qu'il fait, ce qu'il produit, ce qu'il propose, etc. Et on va pas regarder, on va pas faire de calcul sur ce que l'entreprise propose, sur ce que le groupe d'individus fait et gère, en fait. Donc on est vraiment toujours renvoyé à cette individualité dans ces systèmes, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à essayer de casser. À faire des systèmes qui ne soient pas, en fait, qui ne reposent pas sur le calcul personnel de chacun, mais qui essayent de prendre en cause ou en considération, en fait, l'ensemble du système. Ben, il y a un exemple que j'aime bien là-dessus, c'est le Parcoursup américain, en fait. Donc aujourd'hui, c'est très différent parce que chaque ville aux États-Unis fonctionne un peu de la même manière. Par exemple, à New York, donc les élèves qui veulent passer dans le supérieur doivent passer des tests SAT, SAT, comme on les appelle, pour évaluer, en fait, un peu comme chez nous, en fait, leur niveau. Et depuis ce niveau, en fait, chaque formation, un peu comme chez nous, va recruter, va avoir tendance à recruter les meilleurs élèves et pas les moins bons, en fait. Donc chacun fait son petit marché méritocratique comme ça. Ce que proposent aujourd'hui des collectifs étudiants américains, c'est de se dire, le but du jeu pour combattre, en fait, les formes de discrimination qui sont à l'œuvre dans ces systèmes, les formes non méritocratiques qui sont dedans, plutôt que de prendre que les meilleurs élèves, les formations devraient prendre, en fait, les élèves selon l'échelle de ceux qui répondent, en fait, à ces formations. C'est-à-dire prendre les meilleurs, bien sûr, mais prendre aussi des moins bons. Et en fait, voilà, de distribuer la chose plutôt que de l'individualiser. Je pense que, voilà, il y a des tas de pistes comme ça. Le problème, en fait, c'est de faire advenir ces différences et ces autres prises, en fait.
Alors, il reste 2-3 minutes, là. Je te laisse conclure, dire les choses que tu aurais oublié de dire et qui te semblent extrêmement importantes.
Il y en a plein, en fait. Je pense qu'on a besoin de travailler ensemble, en fait. C'est ça que j'aimerais, en fait, un petit peu mettre en avant. Aujourd'hui, les entreprises fourbissent des solutions toutes seules dans leur coin. Les systèmes techniques publics achètent les solutions de ces entreprises. Et la difficulté, c'est qu'on ne répond pas collectivement à ce qui se passe. Et tout est fait pour qu'on n'y réponde pas collectivement. Or, moi, je pense, par exemple, que dans les grands systèmes techniques, comme la CAF, comme Parcoursup, il devrait y avoir, en fait, la représentation des gens qui sont impactés par ces systèmes. À la CAF, pour contrôler le système de scoring de la CAF, on devrait y associer des usagers, des associations qui devraient venir et discuter avec la CAF, avec un droit et un pouvoir, en fait, c'est ça la difficulté, pour pouvoir dire, bah non, là, par exemple, le fait que vous preniez le nombre de personnes qui se connectent, le nombre de fois où vous vous connectez à votre compte, ça, c'est pas normal que vous le preniez en compte pour faire votre calcul. On a besoin de faire cette remontée avec les gens qui sont impactés par les systèmes de calcul. C'est ce que disent depuis longtemps les associations de handicap, c'est pas pour nous sans nous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider de ce qui nous impacte sans nous y associer. On doit être là. Et je pense qu'aujourd'hui, dans tous les grands systèmes de techniques et de calculs qui se mettent en place, on a besoin d'y associer les utilisateurs. Il n'est pas normal que... Alors, vous voyez, Parcoursup a un comité d'éthique qui fait un très bon travail d'ailleurs, mais il n'y a pas dans ce comité d'éthique de représentants des étudiants, des professeurs, etc. Et il y a besoin en fait de ça. Il y a besoin que toutes les remontées qu'il peut y avoir autour des problématiques de Parcoursup soient entendues. Et voilà. Moi je pense que voilà, ça c'est un vrai levier pour moi, c'est de faire que dans tous les grands systèmes, les gens aient une place et une place à cette table pour en discuter.
Bah alors du coup, je vais quand même reprendre une citation que j'avais relevée avant de repasser la parole à Fred. Trop souvent, la prospective n'invite pas les bonnes personnes à sa table.
Ouais, c'est ça, c'est tout à fait. On fait de la réflexion, on fait de l'expertise entre nous et on a vraiment besoin d'y associer les utilisateurs et les gens qui sont impactés par les calculs. Moi, ma grande formule, c'est de dire on peut pas calculer des choses sans inviter les calculés à la table.
Merci beaucoup Hubert, on va rester là aujourd'hui, il y a encore plein de choses à dire, on te réinvitera, si tu es d'accord.
Je reviens la semaine prochaine.
C'était justement la question de Marie-Odile, excellentes idées, excellent intervenant, quand reviendra-t-il? Alors pas la semaine prochaine parce que l'émission est déjà prévue, mais bientôt. En tout cas, je remercie Laurent Costi, vice-président de l'April, pour la préparation et l'animation de ce sujet, et notre invité Hubert Guillot, journaliste spécialiste des systèmes techniques et numériques, et toutes les références qu'on a citées sont sur le site de libreavoue.org. Je vous souhaite une belle fin de journée.